Fréquence protestante, le Midi Magazine, Anne Sandre.
Bonjour à tous. L'histoire est parfois instrumentalisée par le pouvoir. On a entendu récemment le président de la République qui demandait la lecture de la lettre de Guy Môquet dans les classes, qui demandait à des élèves de primaire de se jumeler en quelque sorte avec des enfants juifs victimes de la Shoah. Les bienfaits de la colonisation devaient être soulignés par les professeurs d'histoire. Ces sortes d'ukases présidentielles ont soulevé une certaine irritation dans le monde des historiens. Et un ouvrage a mis en lumière ce genre de problème. Cet ouvrage est paru en 2008, mais il y a une nouvelle version en poche. Cela s'appelle « Les guerres de mémoire, la France et son histoire » et ça a été rédigé sous la direction de Pascal Blanchard et Isabelle Vera-Masson. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Isabelle Vera-Masson, vous êtes historienne et sociologue. Et c'est vous qui avez écrit avec Pascal Blanchard la longue introduction qui est passionnante.
Merci.
De cet ouvrage, qui a été aussi préfacé par un historien connu, Benjamin Stora. Et Louise Merzeau, vous êtes maître de conférence, mais vous êtes aussi artiste et vous avez fait une exposition que l'on peut encore voir à l'Institut protestant de théologie. Ce sont des photos qui montrent justement presque la mémoire en images.
Oui.
Peut-être pour commencer, vous allez nous parler un peu de cette exposition qui a été inaugurée au moment de la réouverture de l'Institut, assez récemment. En même temps que l'ouverture aussi du fonds Ricoeur.
Oui.
Et alors là, nous pourrons aussi parler avec Madame Vera-Masson de Ricoeur, parce que ce penseur, cet historien.
Non, je ne crois pas que ce soit un historien, philosophe. C'est plutôt un philosophe.
Un philosophe,
c'est un
oui.
philosophe qui a réfléchi sur la question de l'histoire.
Voilà, et un de ses livres les plus connus s'appelle « La mémoire, l'histoire et l'oubli ». Mais donc, votre exposition.
Volontiers, donc c'est effectivement une exposition qui a été en fait montée à l'initiative de l'association Protestantisme et Images, avec des œuvres donc, que j'ai réalisées, spécialement pour cette occasion de l'inauguration de l'Institut. Alors, en fait, pourquoi ? Parce que j'ai aussi un lien personnel à cette histoire. Mon grand-père a fait ses études de théologie à cet endroit. Et donc, j'ai pu retrouver dans mes archives familiales des cartes postales qu'on lui avait adressées à cette adresse. Donc, qui portait l'adresse de l'Institut, Boulevard Arago. Et à partir de là, j'ai combiné ces cartes postales avec des photographies que j'ai faites des lieux tels qu'ils sont maintenant et avec des documents prélevés dans les archives du protestantisme, à différents endroits dans Paris. Donc, ce sont des montages numériques comme je pratique souvent cette technique à base de photos, mais pas seulement. Donc, c'est un travail sur, en fait, les couches mémorielles. Donc, c'est, en effet, je travaille sur la mémoire aussi bien en tant qu'artiste qu'en tant que chercheur.
Ça paraît théorique, mais quand on voit vos œuvres, c'est extrêmement décoratif aussi.
Oui, parce que, je garde toujours le souci d'une plasticité, quoi. C'est vrai que c'est un travail. Beaucoup de gens me disent que c'est pictural. Bon, pour moi, ça n'a rien de pictural parce que je ne suis pas peintre. C'est vraiment un travail de photographie d'une part et ensuite de travail sur la matière numérique. Mais oui, c'est un travail sur les couleurs, c'est un travail sur la composition. Comme à mon avis, toute création plastique. Hein.
Vous avez aussi une formation de photographe ou...
Je n'ai pas une formation de photographe, je fais de la photo depuis quasiment toujours, mais sans l'avoir apprise, comme ça.
Bon, alors ça, c'est donc un aspect de la mémoire qui est un aspect visuel. Bon, maintenant, nous allons parler d'un aspect littéraire, enfin écrivain.
Oui, mais la question de la mémoire visuelle est très importante dans notre sujet. Donc la photo est un support de mémoire. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur la question de la télévision et de la représentation du passé, de la mémoire à la télévision. Et j'ai fait aussi des émissions de télévision historiques. Donc c'est vrai qu'on a en commun avec Louise, je n'ai pas son talent, parce qu'elle a beaucoup de talent et ce qu'elle fait très beau. Mais on a ce désir d'être à la fois des acteurs de la mémoire et puis et des gens qui réfléchissent sur ces questions de manière plus théorique.
Alors l'ouvrage contient 25 contributions de 10 ou 15 pages, donc elles sont assez faciles à lire. Et vous avez donc réuni tout un grand nombre de contributeurs et qui sont tous choisis un certain sujet. Ça a commencé par la Révolution française et c'est donc la manière dont les historiens le monde réagit à certains sujets, n'est-ce pas? Alors il y a la Révolution française, il y a Dreyfus, il y a 14-18, il y a Vichy, il y a la Shoah, il y a mai 68, l'Algérie, l'Indochine, et plus récemment les problèmes de l'immigration. Vous êtes, Isabelle Verramesson, vous-même, comme vous le disiez maintenant, votre sujet, c'était plutôt la télévision, la manière dont l'histoire est vue par les médias visuels.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est mon sujet de recherche. D'ailleurs, au départ, c'est un travail de sciences politiques. Donc je partais de cette hypothèse que parler d'histoire, c'est d'ailleurs une hypothèse banale, hein, que parler d'histoire, c'est aussi parler politique, et que dans une télévision très contrôlée par l'État, cela avait pu être un moyen pour les acteurs, pour les auteurs, pour les réalisateurs, de parler politique en traitant des questions du passé. Et donc, je m'étais intéressée à cette question qui était encore une fois une question de sciences politiques et de sociologie des médias, et j'ai trouvé la mémoire. Je me suis aperçue que cette histoire dont on parlait ressemblait beaucoup, à plein de niveaux, plutôt à une mémoire collective qu'à véritablement une historiographie, comme on peut l'enseigner ou l'apprendre à l'école ou à l'université. Donc j'ai retrouvé la mémoire en cherchant l'idéologie, la politique, etc. Donc je me suis intéressée à ces questions qui sont à la fois des questions de mémoire, alors là, dans la tradition de Pierre Nora, et puis progressivement, la tradition de Pierre Nora qui est plutôt une mémoire consensuelle. C'est-à-dire, dans quelle mesure, sur les questions du passé, ou même les questions du présent, les individus vont se retrouver sur des questions en général nationales, pour commémorer, pour former du lien social, pour réfléchir ensemble. Mais on est dans le consensus. Et puis progressivement, les questions de mémoire se sont révélées comme en fait des questions de conflit.
De polémique.
De polémique, même de guerre. On peut même en mourir. Oui. Donc le mot guerre, dont on peut discuter l'utilisation, puisque le livre s'appelle « Les guerres de mémoire », le mot nous est apparu presque évident, mais c'est un changement très important par rapport à la tradition de recherche sur la mémoire. Encore une fois, on est passé du consensus à la question du conflit.
Et comment expliquez-vous ce changement?
Alors, d'abord parce que les questions que se posait Pierre Nora, je crois que c'est lui, hein, il n'était pas le seul, encore une fois, je suis en train de faire un livre, de terminer un livre avec Marc Ferraud. Je crois que Marc Ferraud travaillait sur le cinéma ou sur l'historiographie avec avec des préoccupations de mémoire, mais il ne le traduisait pas comme ça. C'est Pierre Nora véritablement qui a mis un mot sur les choses sur lesquelles plusieurs chercheurs travaillaient. Donc c'était l'idée de travailler sur l'histoire, avec ce que l'histoire avait pu être de perturbation dans notre société, puisqu'on sortait de la Seconde Guerre mondiale, et comment on pouvait se retrouver nationalement sur des lieux, hein, puisque Pierre Nora parle des lieux de mémoire, sur lesquels on pouvait se retrouver. Et puis progressivement, on s'est aperçu que ces lieux, on pouvait se retrouver sur ces lieux, mais on pouvait aussi se battre sur ces lieux, et ça va être les questions, évidemment, les guerres de décolonisation, mais ce qui n'était pas ignoré, ce qui était très connu, c'est la question de la Révolution française, qui a coupé en deux, sinon en trois ou quatre, la nation pendant tout le depuis 1789.
Et encore maintenant.
Et l'affaire Dreyfus, et encore maintenant. Donc les questions de guerre de mémoire n'avaient jamais disparu, mais elles ne s'étaient pas présentées comme des questions mémorielles. Hein. C'était des questions historiographiques.
Je crois que ce qui est important aussi dans le travail de Pierre Nora, c'est justement ce déplacement vers le lieu. Autrement dit, vers la manière dont ce qu'on appelait peut-être auparavant justement l'histoire, mais sans doute à tort, c'est plutôt la mémoire, la manière dont c'est incarné. Alors,
Bon, d'abord dans le travail de collectif autour de Nora, donc ça s'est focalisé sur la question du lieu, et au-delà, et notamment dans ce livre Les Guerres de mémoire, je crois que ce que l'ensemble des auteurs montrent, c'est que y a pas d'histoire purement, c'est pas juste du discours, ou c'est pas une vérité comme ça complètement désincarnée. Le rapport au passé passe toujours par des médias au sens large, c'est pas seulement les masses médias, radio, télévision, internet, mais ça passe toujours par quelque chose qui mélange du matériel, du technique, des corporations. Et je crois que le déplacement de la réflexion, je dirais purement du travail de construction de l'histoire vers une réflexion sur la mémoire, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est surtout ça. C'est ce déplacement vers une mémoire plus incarnée, du coup, bien sûr, plus personnalisée, plus appropriée, et donc potentiellement conflictuel, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, aussi bien les communautés que les individus vont revendiquer des mémoires, chacun leur mémoire. Parce qu'en effet, chacun leur lieu, chacun leur milieu. En fait, c'est beaucoup, je pense, un travail sur les milieux de mémoire. Hein. On peut peut-être ajouter cette nuance, je dirais, par rapport au lieu de mémoire.
Mais Pierre Nora, et d'ailleurs, je l'avais reproché, ne s'intéresse pas du tout aux questions des médias.
Il n'y a rien. C'est une première étape, je pense.
Oui, tout à fait.
Ça a permis une réflexion sur les médias, mais bien sûr, c'est pas ça.
Non, et même, il l'avait refusé, d'une certaine manière. Hein. Donc, les médias sont absents des lieux de mémoire, alors qu'il me semble évidemment incarné par un certain nombre de médias, même s'ils traitent quand même, puisque c'est l'origine de son travail, son premier travaux sur la mémoire, c'est sur les manuels scolaires, ce que nous avons d'ailleurs étudié également. Nous avons dans ce livre essayé de le diviser en deux morceaux. D'un côté, les terrains, les lieux de la guerre et les armes de la guerre. Hein, c'était un peu un jeu sur les mots. Mais c'est vrai que les guerres de mémoire s'incarnent souvent sur le plan national, dans des pays, mais également sur des périodes. Et puis ensuite, chaque conflit, entre guillemets, va se propager à travers différents médias. Et donc, moi, j'ai travaillé sur la télévision, Louise a travaillé sur l'Internet, mais il y a les manuels scolaires, il y a les musées, il y a le cinéma, bien évidemment. Voilà, tous ces lieux sur lesquels vont s'incarner, alors, pour reprendre l'expression de Louise, ces guerres de mémoire. Et puis, se diffuser, et puis être un lieu de... Et puis, bien sûr, il y a eu les lois mémorielles dont vous parlez. L'université, la recherche, ce sont aussi des lieux dans lesquels on va réfléchir à ces questions mémorielles.
Oui, alors lorsqu'on a par exemple voulu montrer les bienfaits de la colonisation, là il y a eu vraiment une levée de boucliers.
Oui, parce que la décolonisation surtout, en particulier la guerre d'Algérie, puisque la décolonisation asiatique a posé beaucoup moins de problèmes. En tous les cas, la guerre d'Algérie a été un lieu de focalisation des conflits de mémoire très 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 important. Et alors qu'il y avait eu des lois mémorielles qui étaient déjà passées finalement d'une manière assez, il y a eu des débats depuis la loi sur l'interdiction de contester l'extermination des juifs d'Europe, la loi Guesso, il y a eu déjà eu un débat, mais finalement tout était passé d'une certaine manière assez facilement, et puis ce qui n'a pas été accepté, c'est le fameux article 4 d'une loi qui prévoyait d'enseigner dans les écoles le caractère positif de la colonisation. Et là, évidemment, ça n'est pas passé. Et alors, à partir du conflit qui est né sur cette question-là, qui était en fait le désir de satisfaire un certain nombre on parlerait de lobby de manière un peu à l'américaine, en tout cas satisfaire un certain nombre de demandes de la part des harkis, des rapatriés, etc. Il y a eu cette tentative pour faire passer quelque chose qui va tout à fait à l'encontre du sentiment en général et puis même de la réalité de l'histoire, si on peut le dire. Donc là, il y a eu une levée de bouclier très très violente qui a remis en question toute la question, le problème général des lois mémorielles.
Oui, parce que je crois que ce que ça révèle, aussi bien, en particulier justement les réactions que ça a pu susciter, c'est que on ne peut pas prescrire la mémoire. La mémoire, c'est quelque chose qui se fabrique, donc qui se fabrique en effet notamment à travers toutes sortes de médiations, hein, qui ne sont pas du tout que des surfaces de projection ou de réflexion. Il y a vraiment, je pense, un travail d'élaboration de la mémoire, à la fois en effet dans le cinéma, dans la télé, dans les manuels scolaires, dans les musées, dans les commémorations, etc. Mais en revanche, on ne peut pas prescrire d'en haut, si je puis dire, par une décision et encore moins par une loi, la mémoire. On ne peut pas dire à aussi bien à une communauté qu'à un peuple, voilà, vous aurez cette mémoire-là. Or, je crois que c'est quand même globalement ce qu'on peut lire à travers ces lois mémorielles ou ces tentatives de lois mémorielles.
Comme s'il n'y avait qu'une réponse.
Oui, alors en plus,
il n'y avait qu'une vérité.
Ça impose un consensus qui ne peut lui-même sans doute affleurer que au gré d'un travail très long, d'oubli, d'amnistie, de concession, mais aussi sans doute de conflits. C'est-à-dire l'existence même des conflits, leur possibilité même sans doute de s'exprimer quelque part, qui peut aussi faire advenir des consensus qui sont quand même nécessaires à la vie, à l'être ensemble, au vivre ensemble.
Mais par exemple, l'affaire Dreyfus, qui est une affaire qui a vraiment secoué la France à l'époque, donc à la fin du 19e. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui n'acceptent pas. Moi, j'ai fait une émission où j'avais mentionné l'affaire Dreyfus et j'avais dit qu'il avait été gracié, etc. Et on a eu des gens qui ont téléphoné pour dire que ce n'était pas possible, que ce n'était pas vrai. Encore aujourd'hui. Moi, j'avais été absolument estomaquée.
Des gens qui sont convaincus de la culpabilité de
Dreyfus. Ah, mais oui! Ah oui.
Oui, c'est incroyable. Oui. Non, l'affaire Dreyfus était un événement extraordinairement important dans l'histoire de la France. Hein, un certain nombre de valeurs qui sont passées de la droite à la gauche, de la gauche à la droite. Donc ça a été très, très, très important. Ça a été évidemment un moment où un grand écrivain français a joué un rôle fondamental. C'est de là que sont partis l'idée des intellectuels, le combat pour les droits de l'homme. Et puis c'est la question évidemment de l'antisémitisme, qui est une question dont on va comprendre. Hélas, dans à quelle proportion elle peut être dramatique. Donc l'affaire Dreyfus, qui aurait pu s'endormir avec l'histoire naturellement, a ressurgi avec l'antisémitisme allemand et le nazisme.
L'aspect, voilà. La guerre, l'armée.
Et alors après, ce que je trouve toujours intéressant à l'affaire Dreyfus, c'est comment l'interpréter. L'affaire Dreyfus exprime l'antisémitisme français? Ou au contraire, le refus de l'antisémitisme de la part de la France. C'est le verre à moitié vide, à moitié plein.
Bah, je pense surtout que ça montre justement comment les conflits de mémoire, et celui-ci est l'un des plus importants, et tout en étant donc un lieu de fracture, est en fait structurant. Quoi. C'est structurant, c'est une sorte de point de repère autour duquel bien l'ensemble des membres d'une communauté vont se référer. Donc, en fait, il n'y a pas de réponse, effectivement, d'un côté ou de l'autre. Je pense que pour certains, et pour beaucoup de Français, c'est une sorte de repère absolu sur une certaine conception, effectivement, du droit, de la justice, de la liberté d'opinion, etc. Et bon, pour d'autres, sans doute, je ne saurais trop comment le formuler, mais ça doit aussi fonctionner comme un repère. Et ça, je trouve que c'est intéressant. En fait, les conflits sont également structurants.
Et là, comme vous disiez, il y a tellement d'aspects qui ont été touchés par ça. Est-ce qu'on retrouve dans d'autres conflits, dans d'autres sujets, la même... généralité,
Oui, souvent les guerres de mémoire importantes posent des questions qui sont beaucoup plus larges, et c'est pour ça qu'elles tiennent, hein. C'est parce qu'elles sont nourries d'éléments extraordinairement riches, complexes, divers, et donc effectivement, et elles font réfléchir au-delà de du simple thème, hein. Ce qui me semble intéressant aussi, sur l'affaire Dreyfus, c'est un petit peu, ça me fait penser aussi à la guerre de 14, c'est-à-dire que est-ce que les guerres de mémoire s'arrêtent? C'est-à-dire qu'est-ce qu'à un moment donné, c'est fini? Est-ce que c'est réglé? On a le sentiment, par exemple, pour l'affaire Dreyfus, c'est quand même une affaire très ancienne qui s'est bien réglée. Il y a eu quand même un happy end, malgré la personne absolument insensée qui vous a téléphoné. Je crois qu'il n'y a plus de doute, quand même. Dreyfus était absolument le pauvre innocent. Et on lui a rendu son honneur et il a terminé dans des conditions correctes. Donc je crois que la question de l'affaire Dreyfus, et la France, d'une certaine manière, en lui rendant son honneur, c'est un petit peu lavé de l'abominable injustice qui avait été. Donc c'est plutôt une histoire qui se termine bien. Elle devrait se terminer et pourtant elle ne disparaît pas. Elle ne disparaît pas parce qu'elle va être réactivée par la question de l'antisémitisme, par la question des droits de l'homme, par la question de la présence des intellectuels dans le débat public, etc. Et c'est un peu pareil pour la guerre de 14. Quand on a réfléchi avec Pascal Blanchard sur les guerres de mémoire qui nous paraissaient importantes, On a, donc, bien sûr, la guerre de 14 est intervenue. Et moi, j'avais un peu cette idée que la guerre de 14 n'était pas un conflit de mémoire.
En fait,
est-ce qu'on n'est pas tous d'accord, quand même, sur la guerre de 14? Je veux dire, personne ne trouve que c'était une bonne idée de faire la guerre. La souffrance, on a tous communié nationalement dans la souffrance et on continue des poilus. J'avais l'impression que c'était une affaire qui était terminée. Et en fait, non, elle les réactivait régulièrement.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfécite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Anne Sandre.
Nous nous retrouvons avec Isabelle Vera Masson et j'espère que cette fois-ci j'ai votre prénom, Louise Merzeau, pour parler des guerres de mémoire. Et j'ai choisi cette chanson de Georges Brassens, La guerre de 14-18, puisque la guerre de 14-18 est un des sujets justement les plus importants et les plus fréquents dans cette guerre des mémoires. Et Isabelle Vera Masson, vous commenciez à nous en parler.
Oui, en fait, c'est, encore une fois, c'est un livre, je vous le rappelle, collectif. Hein, Pascal Blanchard et moi-même, nous l'avons dirigé. C'est d'ailleurs un vrai livre collectif dans la mesure où nous avons choisi nos auteurs.
Et choisi le sujet ?
Choisi le sujet, choisi nos auteurs, non pas parce que nous avions fait un colloque avec un appel à communication, mais véritablement en choisissant... Je ne pense pas aux autres, mais les meilleurs, je crois, ou presque les meilleurs dans leur domaine, pour que tous les sujets qui nous paraissent importants soient traités. Ce qui a été le cas, sauf nous avons une exception, et elle est grave d'ailleurs, c'est qu'il n'y a rien sur l'Arménie. Parce que quelqu'un nous avait fait une défection au dernier moment. Mais pour la guerre de 14-18, c'est Annette Becker, qui est une grande spécialiste de cette question, qui a fait un article, et donc évidemment, ça aurait été mieux qu'elle soit là, mais on ne peut pas faire venir les 29 intervenants, et je les représente ici. Donc Annette montre comment ce conflit qui, me semblait-il, moi, assez apaisé, en réalité, est réactivé, sinon par Georges Brassens, qui a choisi comme celui qu'elle préférait, mais également sur les questions des mutineries, qui sont réactivées, à la fois parce que, rappelez-vous, que Lionel Jospin avait abordé cette question, mais également des films, des livres qui repartent, avec ces questions qui, vous en parliez tout à l'heure, qui dépassent largement la question de la guerre de mémoire elle-même ou de l'événement historique lui-même, qui est... Faut-il ou pas désobéir lors d'un conflit ? Est-il normal ou pas de punir ceux qui refusent de se battre ? Y a-t-il une légitimité à la désobéissance ? Et la répression contre ces mutins ? On voit bien que c'est une question qui dépasse totalement la question de la guerre de 14 elle-même, puisque en cas de conflit, en cas de comment dirais-je, de désaccord sur un problème politique, que faut-il faire?
Là, on est. Ce qui est très intéressant, justement, dans la guerre de 14-18, c'est le fait qu'évidemment, ça touche aussi la question du témoignage. Hein. Question qui va également, bien sûr, se poser pour la période de la Seconde Guerre. Mais moi, je m'étais intéressée à un moment, justement, aussi au traitement par la télévision de ces questions, notamment dans la restitution médiatique des commémorations, dans la parole des anciens poilus, dans cette espèce de compte à rebours où chaque année, on comptait, on nous montrait toujours le dernier poilu. Bon, puis chaque année, il y avait toujours le dernier poilu. Bon, là, je crois que malheureusement,
on est arrivé au stock. Et on a pris l'italien.
Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est... Bon, disons qu'il y a quelques années, on se contentait de les montrer sous l'Arc de Triomphe. Ensuite, on a tout doucement commencé à leur donner la parole.
Oui, des pages
entières.
Leur
propre parole a commencé à se libérer, c'est-à-dire à se décaler un peu peut-être d'un discours plus convenu qu'on avait auparavant. Et puis au-delà simplement de ces témoignages, c'est vrai qu'on a constaté à quel point ce sujet de la guerre de 14-18, à travers donc ce fil conducteur du témoignage et de la transmission, a gagné toutes sortes de médias. Bon, tu parlais du cinéma, je viens de parler de la télévision, mais il y a aussi la bande dessinée. Il y a beaucoup de bandes dessinées sur la guerre de 14-18. Il y a eu des expositions et moi j'ai aussi commencé à m'intéresser donc à la présence de ce sujet sur Internet à travers notamment des plateformes de partage où les individus peuvent mettre en ligne des documents, en particulier des photographies ou même des lettres, et c'est extraordinaire. Et là il y a vraiment un travail de mémoire qui est tout à fait passionnant et qui est tout à fait dépendant de la nature même du média qui autorise ça.
On a dans ce sens ce que montrent aussi les guerres de mémoire ou l'historiographie ou la manière c'est la manière dont une société se saisit d'un événement. Cela montre son état d'esprit aussi. Par exemple, Serge Barcellini, dans un article sur l'État républicain acteur de la mémoire, montre que l'on est passé dans les commémorations des morts pour la France aux morts à cause de la France. Et ça me semble un changement anthropologique, mais fondamental, ouais. Et on le retrouve dans d'autres segments de la société. Ouais. Moi, je travaille sur les questions de justice, on va la semaine prochaine à Blois, on va parler de justice et de médias, et on voit bien que là aussi, on est passé du héros, enfin, le héros, c'est d'ailleurs le criminel, éventuellement, à la mise en avant de la victime. Donc, on passe en histoire, dans les guerres de mémoire, comme dans la justice, comme dans plein de domaines, tout d'un coup, du grand homme, du héros, du mort pour la France, au mort à cause de la France, la victime. Et c'est très intéressant parce que ça dit des choses profondes, je ne sais pas d'ailleurs bien lesquelles, hein, on est en train de les constater, graves, essentielles sur notre société.
Mais oui, Quelle est la cause de ce changement?
Alors, je crois que là dans notre livre, là, pardon d'en parler, mais enfin, c'est son objet aussi, hein, c'est l'objet d'émission, il y a plusieurs articles qui me semblent tout à fait éclairants. Il y a l'article en particulier d'Esther Benbassa sur « À quoi sert la guerre de mémoire ?», l'article de Traverso, notre introduction, notre conclusion. L'article sur la Shoah montre quand même qu'il y a un événement là qui modifie complètement notre manière d'envisager le monde. Hein. C'est-à-dire que ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, là aussi, va révolutionner complètement notre manière d'envisager les rapports entre les hommes, le rapport à l'histoire, le rapport à la tragédie, aux individus. Donc, cette référence essentielle de l'extermination des Juifs, également du nazisme, et puis l'individualisme, est-ce que c'est lié? Je ne crois pas, là, ça doit être quand même un autre phénomène, mais fait que tout d'un coup, les individus, les victimes, prennent un rôle tout à fait essentiel. Et c'est porté à la fois par les communautés, hein, c'est porté par ces guerres de mémoire, c'est porté par les médias, et c'est porté par des individus de plus en plus conscients, de plus en plus éduqués, on est quand même dans des sociétés dans lesquelles on est quand même...
Oui, je crois qu'il y a enfin, c'est évidemment...
Personne ne disparaît plus.
Un phénomène très complet, mais il y a plusieurs fils d'explications, dont l'un, bien sûr, c'est l'effritement ou l'affaiblissement des histoires officielles. Hein. Ça, c'est évident à tous les niveaux, dans les mécanismes de transmission du savoir, dans le discours officiel de l'État, etc. Donc là, c'est évident qu'il y a eu un effritement qui, du coup, a autorisé, a favorisé l'émergence, justement, d'abord de mémoire au pluriel, de mémoire souvent identitaire, communautaire, revendicatrice de quelque chose, des mémoires aussi blessées ou qui se sentaient frustrées ou méprisées. Donc là, il y a un mouvement qui traverse pas seulement les questions d'ailleurs de mémoire, mais toute la transmission du savoir, je veux dire un nouveau rapport à la vérité, indéniablement. Mmh. Et puis je pense, alors même si c'est peut-être un peu à la marge, mais quant à moi, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de se transformer là aussi anthropologiquement dans notre société, c'est le rapport à la mémoire, à l'oubli, du fait qu'on est sans doute en passe d'être dans une situation absolument inédite où on a ce que j'appelle une mémoire par défaut, c'est-à-dire que tout se dépose automatiquement, sans qu'on le veuille, sans qu'on le choisisse, et ce qui devient très paradoxalement, sinon impossible, en tout cas problématique, c'est l'oubli. Je crois que c'est ce qui redonne aussi vraiment actuellement autant d'importance et je dirais d'enjeux autour de cette question de la mémoire.
Est-ce que ça vient du fait qu'on est tellement bombardé par les informations qu'on ne peut plus échapper?
Non, je dirais pas que ça vient. Pour moi, c'est pas un problème de diffusion, c'est pas un problème de surinformation, du moins pas dans ce sens. C'est vraiment dans la manière dont les discours, les images, etc. s'élaborent et surtout se déposent avec le numérique, avec le monde
c'est
du numérique. Toute instruction, toute décision, toute expression, bon, même la plus insignifiante, même celle qu'on croit dépourvue de sens, elle dépose une trace et cette trace s'enregistre.
Et on la garde.
À notre insu. Et donc elle se dépose dans des stocks quasi illimités, en tout cas qu'on pense aujourd'hui comme illimités, même s'ils ne le sont jamais réellement. Et donc ça, je crois que ça a inversé notre rapport au temps, au passé, à la mémoire, à l'oubli. C'est-à-dire tout le monde, même, je dirais, nous-mêmes, chacun individuellement, par exemple, par rapport à nos photos de famille, de vacances, etc. Bon, avant, fallait quand même un petit peu compter. D'une part, c'était cher. Ensuite, ça prenait de la place. Ensuite, fallait aller les faire développer, etc. Aujourd'hui, avec les photos numériques, on compte plus. Et donc, bon, on se dit, bah voilà, je vais en prendre 1000 au lieu de 200 parce que de toute façon, j'ai la place, ça coûte pas plus cher, etc. Je les regarde pas, à la limite, mais elles se déposent quelque part. Elles s'effacent aussi, hein, mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais je crois que là, il y a un rapport complètement différent qui fait aussi que la mémoire fait problème aujourd'hui, quoi. Il y a un problème de mémoire, non pas parce qu'on risquerait d'oublier trop de choses ou tout, mais au contraire, parce qu'on risque d'oublier l'oubli.
Alors qu'on sait que les sociétés constamment, systématiquement font page blanche.
Bien sûr,
on a besoin de l'oubli. C'est-à-dire régulièrement, il y a des lois d'amnistie, il y a des décisions, même, je veux dire, dans l'histoire médiévale ou moderne, des décisions collectives d'oubli, parce que sinon les sociétés n'arriveraient pas à vivre. Surtout les sociétés comme les nôtres, qui sont des sociétés historiennes, dans lesquelles l'histoire a un fondement tout à fait légitime. Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, de toutes les sociétés. En tout cas, c'est la nôtre. Donc, effectivement, nous sommes face à une époque, et ça, ce sont les progrès techniques. Je crois que c'est pas la peine d'aller chercher d'autres raisons. Les progrès techniques autorisent la conservation de tout, et puisqu'elles l'autorisent, eh bien on le fait. Alors évidemment, on connaît les excès en matière de surveillance, de sécurité, etc. Mais puisqu'ici c'est pas notre sujet, les excès en matière de mémoire semblent évidemment étonnantes. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire une société où on ne sait plus qui est mort ou qui ne l'est plus? Combien de fois entre nous on se dit tiens, Simone de Beauvoir, elle est morte ou pas? On ne sait plus puisqu'on l'a vu à la télévision la veille. Enfin, il y a un moment donné, on ne sait plus qui. Vous savez que quand le cinéma s'est créé, il a dit le cinéma va faire disparaître la mort. Il ne savait pas à quel point ça allait continuer. C'est-à-dire que on ne sait plus, plus rien disparaît. Et le droit à l'oubli est devenu une idée très très forte. Moi, j'ai travaillé sur les questions de reconstitution dramatique, de docu-fiction et les docudramas. Eh bien, ces gens que l'on met en scène dans leur drame personnel, hein, c'est une mémoire personnelle, mais qui devient collective parce qu'elle est soumise à des millions de téléspectateurs, réclament le droit à l'oubli. Ils demandent qu'on ne parle plus d'eux. Oui, on ne peut pas ne plus parler d'eux puisqu'il y a Facebook, la télé, alors, Internet.
Ce passage du devoir de mémoire
au droit
à l'oubli est quand même très extraordinaire, très symptomatique. Et je pense qu'il est important justement de rappeler que alors même si ça fait pas mémoire, mais disons que les traces, et notamment les traces de nos vies, hein, les traces place de chacun de nos actes et de bien sûr de nos discours ou de nos productions, ces traces sont maintenant un enjeu économique. Hein. C'est le premier enjeu économique pour tout ce qui se passe actuellement sur le web. C'est les sociétés qui font le plus de bénéfices. Elles font des bénéfices comment et sur quoi ? Sur nos traces. Hein. Donc ça, c'est... Alors bien sûr, ça repose sur un mécanisme technique assez compliqué. C'est un univers dans lequel tout le monde, évidemment, ne baigne pas toute la journée, que beaucoup s'autorisent encore à penser comme un monde un peu à part, hein, le monde du numérique. Mais moi, j'ai la conviction que, bon, de toute façon, on va vers ça. Enfin, on y est déjà largement. Et ce sont, encore une fois, des ressorts, des enjeux stratégiques considérables. Hein. C'est pas juste au niveau des discours ou des représentations mentales.
Mais pour l'historien, pourtant, il faut quand même remettre un peu de bémol là-dedans. C'est-à-dire que, à la fois, tout est filmé, tout est conservé, et en même temps, beaucoup de choses ont disparu, qui étaient très essentielles pour les historiens. Par exemple, le courrier. On ne s'écrit plus. Et je pense que les mails disparaissent, enfin, pratiquement quand même. Donc il y a des pans entiers de nos vies qui étaient essentiels pour les historiens, qui ne se conservent plus. Donc on parlait des cartes postales, on ne s'envoie plus de cartes postales. Il y a quand même tout
je
un.
Je sais pas. On s'envoie encore des passeports.
Mais tu as raison, c'est très paradoxal en fait. À la fois tout dépose une trace. Surtout donc presque en amont de chaque acte, il y a déjà une trace. Et en même temps, en fait, le propre des traces numériques, c'est justement que finalement elles sont éphémères. En tout cas, les supports ou les mécanismes qui permettent de les lire, les logiciels, en gros, sont extrêmement éphémères. Pas forcément d'ailleurs parce qu'ils cessent de fonctionner au bout d'un moment, mais parce que la logique industrielle fabrique de l'obsolescence et donc rend n'importe quel matériel ou logiciel inutilisable au bout de maintenant. Ça se compte à peine en mois.
Sans compter que probablement, comme les grandes décisions historiques, probablement c'est les seuls endroits où, lorsque c'est vraiment grave, lorsque c'est vraiment important, lorsque c'est décisif, qu'il n'y aura ni caméra, ni l'appareil photo, ni enregistrement. C'est-à-dire qu'on aura tout, sauf peut-être le moment le plus important, le plus grave, le plus incompréhensible. C'est la fameuse conférence de Wannsee. C'est-à-dire que, on ne sait pas très bien. Je pense qu'il y aura toujours quelque chose. Et c'est ce mythe de la transparence totale est quand même un mythe.
Bien sûr,
il y aura toujours.
Il n'y a aucune transparence, au contraire. Ça produit de l'opacité, saturation de traces.
Mais le rêve de l'historien de retrouver les lettres dans un grenier, ça va disparaître.
On cherchera des cassettes, on cherchera des DVD, on cherchera des clés USB. Donc il va y avoir bien évidemment une obsession des traces encore plus grande, mais qui seront sur d'autres supports beaucoup plus compliqués effectivement à lire, puisque la clé USB, à mon avis, très rapidement, on ne pourra plus la lire, alors que les cartes postales et les courriers.
En revanche, ce qui compense là aussi ce risque finalement de du côté très éphémère de toutes ces traces numériques, c'est le fait qu'elles se copient. Il y a presque pas de traces numériques isolées. Toutes les traces sont prises dans des cascades de copies, de transferts, de recyclage. Il y a vraiment une viralité des traces numériques qui fait que même si chacune individuellement est assez fragile et très instable, ça produit quand même, je pense justement à terme, une mémoire, mais une mémoire certainement d'un genre tout à fait nouveau.
Moi j'étais il y a quelques jours à l'IMEC, l'Institut de conservation de l'édition contemporaine. Donc c'est le lieu qui conserve les traces des archives des écrivains, des intellectuels, des maisons d'édition. Et alors ça y est, c'est très amusant. C'est-à-dire qu'ils ont du papier, mais enfin ils ont déjà beaucoup de disquettes.
Une branche de recherche sur la génétique des textes numériques.
Des DVD, etc. C'est passé, ça y est, j'ai vu le passage du papier à d'autres supports totalement étranges. Et alors ils vont être obligés effectivement de garder des vieux ordinateurs, des vieux logiciels. Et
ça. Ce qui est intéressant dans cet environnement numérique, au-delà des problèmes de pérennité et de support, c'est justement, pour en revenir à la question des guerres, moi c'est ce qui m'a intéressé, c'est là aussi assez paradoxal, enfin, j'ai eu l'impression qu'on pouvait à la fois constater que peut-être pour la première fois, un environnement justement technique, médiatique, permet une sorte de compatibilité de toutes les mémoires. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que chacun, n'importe qui, n'importe quelle communauté peut en effet trouver un lieu d'expression sur Internet, alors que c'était quand même très difficile avec les médias antérieurs. Et en même temps, on pourrait se dire du coup tout ça pèse. Et bien sûr non. Du coup, on trouve aussi sur Internet presque à chaque page, presque dans chaque commentaire de blog,
Justement, on voit comment ces guerres de mémoire sont toujours actives, sont toujours réactivées justement par ces dispositifs, qui sont souvent polémiques, qui sont souvent conversationnels, mais avec, en général, des affrontements, ou en tout cas des chocs, hein, des télescopages qui peuvent être assez, assez brutaux même.
Mais pour revenir à la télévision, par exemple, vous avez dans votre participation au livre parlé du chagrin et de la pitié. Et là, on a vu d'autres films, par exemple, sur la guerre d'Algérie, qui avaient été interdits. Et là, c'est l'État qui vient s'opposer à cette guerre des mémoires.
Oui, l'État a toujours intervenu sur la manière dont la mémoire, alors on ne parlait pas de la mémoire, on parlait de l'histoire, dès qu'on parlait des commémorations, on parlait d'enseignement dans les écoles, estimé que c'était son devoir de contrôler tout ça. Et c'est vrai que le général de Gaulle, particulièrement, c'est-à-dire que c'est le général de Gaulle qui arrive en 58 au pouvoir, et quelqu'un qui a émergé grâce à l'histoire, qui est porté par un destin historique, qui a un regard sur son histoire, sur ce qu'il a à faire, sur son destin qui est vraiment historique. Et donc, il va s'intéresser à la manière dont on va traduire l'histoire, que ce soit à la télévision, que ce soit dans les manuels scolaires ou au cinéma, etc. Donc, très tôt, il va s'intéresser à ces questions historiques. Et au-delà de son gouvernement, on va quand même conserver cet état d'esprit, surtout avec Pompidou. C'est vraiment 74, c'est vraiment Giscard d'Estaing, quand il arrive au pouvoir, qui lui, alors, n'a plus cette relation au passé qui est historique ou grandeur nationale. Mais avant, donc il y a une préoccupation très très précise de la part des gouvernants sur ces questions mémorielles. Et que lorsque le chagrin et la pitié se présentent, donc c'est un projet c'est un projet de la télévision qui se fait d'ailleurs à l'extérieur de la télévision. Eh bien, le résultat, qui est un résultat qui va totalement à l'encontre du grand récit national porté par les gaullistes et les communistes d'une France résistante, est entièrement mis à mal. Et là, le pouvoir décide d'interdire la projection de ce film à la télévision. Et ce qui est intéressant, c'est que ce film ne passera pas à la télévision. Probablement grâce à cela, il va avoir un destin extraordinaire, puisqu'il va passer au cinéma. Et que le cinéma, fait plus la gloire d'un produit probablement que la télévision, parce que on choisit d'aller voir un film, on se met ensemble, on en discute après, on peut retourner le voir. Donc le cinéma va donner une épaisseur à l'interdiction et le cinéma tout à fait extraordinaire, et puis c'est aussi un film très intéressant. Mais c'est un film très contestable sur le plan historiographique. Les historiens, par exemple, tout à fait respectables et indiscutables, comme par exemple René Raymond, vont considérer que Raoul Girardet, qui était à Clermont-Ferrand à l'époque pendant la guerre, considère que ce film n'est pas du tout un film honnête sur le plan historique. C'est intéressant de les entendre dire, même si ce film est un très grand film sur le plan du cinéma, c'est un film très intéressant sur le plan historiographique. C'est
Le choix des témoignages.
Et l'organisation du film est tout à fait contestée par des historiens qui, à mon avis, sont tout à fait respectables. Et d'ailleurs, René Raymond, avec Georgette Elgey, va faire un film à la télévision qui n'a eu aucun succès, que personne n'a vu et dont on ne parle jamais, certains ne se rappellent plus, alors que ce sont des gens qui sont vraiment des historiens. Donc c'est intéressant de voir, qui s'appelle La France et les Français sous l'occupation, qui est une réponse au chagrin et à la pitié, qui est beaucoup plus historienne, c'est une réponse vraiment historienne au film. Eh bien, ce film n'a eu aucun succès.
De toute façon, là, ce que tu viens de dire à l'instant rejoint... une remarque, je pense qu'il faut faire par rapport à la question de la censure. Non, loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a plus de censure. Je pense qu'il y a, bien sûr, elle agit encore, mais elle peut agir par des biais peut-être plus indirects, plus détournés. Mais concernant la télévision ou les médias de masse en général, ce qui paraît indéniable, c'est que justement cette censure d'État, encore une fois, qui était très verticale, autoritaire, explicite finalement, et d'une certaine manière quand même oppressive,
est devenue plutôt une autocensure qui est en fait une censure exercée par le principe de l'audience. Donc c'est vrai que la télévision, aujourd'hui, quelle que soit, je pense, la chaîne, peut-être avec des nuances, mais va éviter de passer un documentaire, une émission, un magazine, quoi que ce soit, qui justement, dont elle aurait l'impression qu'elle va réveiller ou activer une guerre de mémoire, parce que ce qu'on cherche, c'est une espèce de consensus mou qui s'appelle l'audience, la plus grande audience, quoi. Donc là, il y a une mécanique économique, enfin vraiment arithmétique, qui fait qu'on obtient une autre forme de censure. Et je crois qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'émissions qui sont produites, qui existent, et qui ne peuvent pas passer à la télévision, parce que les chaînes s'auto-censurent. Personne ne leur interdit de les passer, mais elles-mêmes se disent, oh là là, attention, ça va pas plaire à telle ou telle partie de l'audience.
Il y a aussi un phénomène qui me semble augmenter, c'est cette manie de faire la journée de. La journée de. Et ça, c'est aussi quelque chose, il me semble, assez nouveau. Et c'est une manière d'espèce de raviver les mémoires.
Alors, il y a eu une inflation de commémoration à une époque, dans les années 80, enfin, ça a commencé dans les années 70, 80, 90, assez incroyable. Donc, d'ailleurs, à interpréter de manière compliquée. Pierre Nora, par exemple, et moi je l'ai dans le même sens, voyait dans cette inflation des commémorations une sorte de retour du regard du mort sur, enfin, du vivant sur le mort. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui était en train de disparaître, notre rapport au passé, notre rapport à notre histoire nationale. Et comme on avait le sentiment que tout ça était en train de disparaître face à un présentéisme ou face à une société incroyable qui vit au jour le jour, aujourd'hui, la consommation, l'hédonisme, etc., tout d'un coup, on essayait de rattraper le passé qui était en train de disparaître. Donc ces commémorations ont probablement servi à ça, probablement à essayer de bloquer la fuite du temps. Donc ça, je crois que ça. Alors les journées, la journée de la femme, la journée de la grand-mère, je crois que c'est plutôt des phénomènes de là aussi de marketing, vraiment. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qui ont un sens. Et puis après, autour de quelque chose qui a un sens, se sont greffés un certain nombre de manifestations qui permettent aux enfants des écoles d'aller dans la rue acheter un petit cadeau pour la grand-mère, aux commerçants d'ouvrir le dimanche. Mmh. Enfin, là, je crois qu'on est quand même dans une société... on a parlé de la société de consommation dans les années 60, c'était de la rigolade par rapport à ce qu'il y a
d'ailleurs
aujourd'hui.
D'ailleurs, même, enfin, sans confondre complètement, mais même les commémorations, je pense qu'effectivement, c'est un raccourci de ce que tu disais, à savoir sans doute un mouvement de contrepoids ou de contrepoint à une société qui a un rythme qui s'accélère, un sentiment peut-être d'éternel présent. Donc là, très certainement, ce que nous, on avait appelé dans les cahiers de minéologie la confusion des monuments, on avait aussi examiné cette prolifération patrimoniale ou mémoriale, très certainement, compense ça. Mais elle ne le compense pas, bien sûr, par un recul historique, un travail critique, parce que notre société, sans doute, ne le permet plus. Hein, ou en tout cas, pas au quotidien, pas de manière comme ça quotidienne et répartie au niveau de chaque individu. Mais du coup, donc, cette compensation se fait sur le mode médiatique de l'événement, hein, de l'événementiel. Donc, c'est une sorte de contraction entre, en effet, un rapport au passé, un rapport aux morts, sans doute, et la nécessité de traiter toute chose comme un événement. Comme de l'actualité. Hein, il faut que ça soit de l'actualité. Donc, on crée des événements, on crée les journées, on crée les commémorations. Voilà.
Je veux dire que nous, à Fréquence Protestante, nous sommes aussi coupables, puisque nous avons une émission qui s'appelle « Des mille et des cents », où nous parlons des anniversaires et des commémorations.
Il y a un très beau livre sur ces questions-là, sur les anniversaires et commémorations, qui montre que nous avons aussi besoin de nous repérer dans le temps et que les anniversaires et les commémorations sont pour nous un moyen de vivre ce que l'auteur appelle le grand calendrier et qui est aussi une manière de s'orienter dans la durée. Mmh, et ça me semble important.
Mais ces journées risquent aussi quand même de mettre en évidence des polémiques. Et par exemple, je sais pas, il y a la journée des harkis ou la journée... c'est quand même ça risque aussi de faire des
Chaque choix d'une date de commémoration est un moment de débat, voilà. De discussion. Mais de toute façon, on l'a bien vu sur effectivement la commémoration de la guerre d'Algérie, de l'extermination des Juifs. Enfin, à chaque fois, une date signifie quelque chose. Le fait de choisir le jour de la victoire, c'est pas la même chose que choisir le jour de l'anniversaire de quelqu'un, etc. Enfin, chaque chose c'est est sûr. Portée par un certain nombre de signes qui ont une signification. Donc, il y a un débat. Maintenant, la multiplication des anniversaires, c'est un petit peu ce qu'on disait sur la mémoire. À un moment donné, trop d'anniversaires tuent les anniversaires, trop de commémorations tuent les commémorations, et la multiplication des mémoires permise par la multiplication des médias et la possibilité de diffuser, va probablement tuer les véritables commémorations, les véritables réflexions. On ne peut pas, chacun ne peut pas avoir sa petite guerre de mémoire individuelle. Ça n'a plus de sens. Il faut quand même se retrouver entre soi pour, à la fois pour commémorer ou pour faire la guerre.
Je crois qu'en effet, justement, on est sans doute là un tournant dans le rapport collectif à la mémoire et au-delà à l'histoire, qui évidemment n'est pas tout à fait la même chose. Il y a eu effectivement, d'abord sans doute, le sentiment qu'il y avait une chape de plomb, il y avait un couvercle sur quantité de mémoire qui ne pouvait s'exprimer. Ensuite, il y a eu ce sursaut mémoriel qui a débouché sur cette prolifération de commémorations, de revendications de toutes sortes. Et je crois qu'aujourd'hui, peut-être, on commence à peine à se poser justement la question et du choix et de l'oubli. On en parlait tout à l'heure. On se rend compte qu'une mémoire collective nécessite des choix assumés, et nécessite donc de l'oubli. Non pas pour dire que toutes les mémoires n'ont pas droit à s'exprimer, mais une société, et tout particulièrement un pays, une nation, doit se retrouver, se rassembler sans doute dans des choix. Donc bien sûr, tout choix, c'est une exclusion aussi.
Et pour terminer, je voudrais juste vous poser une question sur les jours fériés. Qu'est-ce que vous pensez du maintien du 11 novembre, du 8 mai?
Oui, vous avez raison, c'est une bonne question. C'est une question qui est tout à fait liée au débat qu'on a eu aujourd'hui. Un jour férié, c'est une commémoration, c'est marqué. Et on voit bien que selon que l'on choisit de faire un bank holiday comme en Angleterre, ou bien l'Assomption comme en France, ou bien le 11 novembre ou aux États-Unis le jour du 4 juillet, qui est une commémoration d'une guerre, la société est différente. Donc ça nous dit des choses sur la manière dont la société pose l'accent sur telle ou telle chose. Elle donne les valeurs et l'ordre de grandeur de ce qui compte pour elle.
Voilà. Eh bien, sur ces mots, nous allons achever cette émission. Je vous remercie Isabelle Vera-Masson et Louise Merzeau. Et votre livre. Je rappelle le titre du livre, Les guerres de mémoire, la France et son histoire, paru à la Découverte Poche.
Merci.
Merci bien.